Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'actualité de l'Église a été marquée mardi 9 avril par la plénière de l'Académie pontificale des sciences sociales sur le thème concernant le handicap. L'actualité de l'Église nous conduira également en République démocratique du Congo, au Kenya et au Cameroun, entre autres. Nous nous rendrons en République démocratique du Congo, au Kenya et en Guinée dans le cadre de l'actualité politique et sociale sur le continent africain. La deuxième partie de ce programme concerne les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
L'Académie pontificale des sciences sociales a tenu dans la matinée de mardi 9 avril une séance plénière autour du thème « Le handicap et la condition humaine, changer les déterminants sociaux et construire une nouvelle culture d'inclusion ». Il n'existe pas de nombre exact des personnes porteuses de handicap dans le monde. Les organisations internationales estiment que 16%, soit 1,3 milliard de la population mondiale, souffrent de pathologies invalidantes importantes. Avec le vieillissement de la population mondiale et l'augmentation des maladies chroniques et invalidantes, le nombre de personnes porteuses de handicap est appelé à augmenter. Le handicap est une manifestation de variations possibles du fonctionnement humain résultant de l'interaction avec des environnements barrières plutôt qu'une anomalie physique à écarter. Le handicap pose donc un défi décisif. Une nouvelle culture mondiale d'inclusion doit être développée en éliminant les barrières qui entravent l'épanouissement des personnes porteuses de handicap. Le développement d'une nouvelle culture de reconnaissance et d'inclusion semble urgent dans la société d'aujourd'hui qui s'interroge de plus en plus sur les conditions qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. La plénière entend relever le défi et apporter sa propre contribution en identifiant les déterminants sociaux spécifiques qui, dans les domaines culturels, familiales, éducatifs, politiques, économiques et de l'emploi, représentent les barrières qui augmentent le handicap d'une société et empêchent les personnes porteuses de handicap de participer pleinement à la vie sociale en y apportant leur contribution originale. Le secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, Mgr Paul-Richard Gallagher, s'est rendu mardi 9 avril au Vietnam. Il restera dans ce pays jusqu'au dimanche 14 avril pour y rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Bui Tan Son, et le premier ministre, Phan Minh Chinh. Des rencontres institutionnelles sont également prévues au ministère de l'Intérieur, ainsi qu'une célébration eucharistique en la cathédrale Saint-Joseph dans la capitale Hanoï. Une visite en la province ecclésiastique de Hue pour y rencontrer les étudiants du grand séminaire et présider une eucharistie est également prévue au cours de ce voyage. L'actualité de l'Église nous conduit en République démocratique du Congo où l'évêque de Goma fait part de la présence du Christ ressuscité dans une zone en conflit. Les détails avec Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
L'évêque de Goma dans la province du Nord Kivu, Monseigneur Willy Ngumbi, garde l'espérance dans le Christ ressuscité. C'est pourquoi l'Église de Goma continue à assurer la présence des prêtres dans les zones conquises par le mouvement rebelle du M23 qui sème la guerre depuis deux ans.
Birambizo, c'est la seule paroisse pour le moment qui est fermée, c'est Birambizo. Les autres paroisses sont ouvertes. Kichanga, Ruchuru, Kiwanja, Binja, Namilima, Jomba, Rugari, il y a des prêtres qui sont là. Les chrétiens continuent à être animés et à donner le témoignage de solidarité surtout. Comme ils peuvent.
La guerre du M23 approche de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mais l'évêque soutient le courage de la population, malgré la situation inconfortable.
Même si le mal essaie de triompher, nous avons toujours l'espérance que le Seigneur triomphera et il gagnera.
Monseigneur Willy Ngumbi s'exprimait le lundi 8 avril à Butembo, à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, a présidé la messe d'ouverture qu'ont célébrée par les cinq autres évêques de la province ecclésiastique, dont l'évêque de Butembo Beni, Monseigneur Melchisedec Sikouli. Monseigneur Maroi a invité à prier pour la paix. Les travaux de l'Assemblée épiscopale provinciale se clôturent le dimanche 14 avril. Jean-Baptiste Malingue Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Kenya, deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Nairobi, messeigneurs Wallace Nganga Kashihi et Simon Peter Kamomoi, ont reçu l'ordination épiscopale le samedi 6 avril au cours d'une messe présidée par le nonce apostolique au Kenya et au Soudan du Sud, Monseigneur Hubertus Van Meegen.
Dans son homélie, le nonce apostolique a exhorté les nouveaux évêques à répondre à l'appel de l'amour du Christ et à servir humblement et fidèlement le peuple des dieux qui leur est confié.
Dear Simon Peter, dear Wallace,
cher Simon Pierre, cher Wallace, que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amène à son terme. Et souvenez-vous, même si tous ces gens vous abandonnaient, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Au fond de votre cœur réside le courage, un phare de lumière toujours présent. Et même si tous ces gens vous abandonnent, Christ est l'ancre de votre bateau.
Plusieurs personnalités politiques étaient présentes à cette célébration, notamment l'ancien président Uhuru Kenyatta ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Moses Wetangula, qui représentait l'actuel président du Kenya, William Ruto, se trouvant à l'étranger. Les deux nouveaux évêques ont célébré chacun une messe d'action des grâces les dimanches de la miséricorde divine. Monseigneur Simon Peter Kamomoi a présidé l'Eucharistie à la basilique mineure Sainte-Famille de Nairobi, dont il a été le recteur durant 14 ans. Monseigneur Wallace Nganga Gashishi, pour sa part, a présidé la messe en la paroisse Christ-Roi de Kiriga. Depuis Nairobi, Camille Mukoso et Christian Kombe pour Radio Vatican.
Le cardinal Robert Sara, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, s'est rendu au Cameroun depuis mardi 2 avril pour une visite d'amitié dans le diocèse d'Obala. Il a notamment ordonné 12 prêtres vendredi 5 avril. Paul Valéry Médongo.
Au nouveau prêtre qu'il a ordonné à la place des fêtes de la ville d'Obala au Cameroun, le cardinal Robert Sara a rappelé et expliqué densément ce que c'est que le sacerdoce ministériel.
Le prêtre est le signe qui nous rappelle le primat des dieux dans un monde de plus en plus frivole, indifférent et même hostile à Jésus-Christ, à son évangile et à son Église. Les prêtres, parce qu'ils sont radicalement consacrés, offerts et donnés à Dieu, ils renoncent au mariage, ils renoncent à la famille, ils renoncent aux gains matériels et financiers. Dieu seul est leur unique bien, leur unique amour, leur unique bonheur et leur héritage.
Un accueil empreint de simplicité, de ferveur, des fidèles très enthousiastes, des moments de prière, des enseignements sur l'Église, l'Église en Afrique, la doctrine de l'Église, la loi morale, la prière, le rôle des laïcs dans l'Église et le sens du sacerdoce ministériel. Voilà comment on pourrait résumer la visite de 10 jours du cardinal Robert Sara au Cameroun sur invitation de l'évêque du diocèse d'Obala, Mgr Sosten Bahimi. Paul Valéry Mondogo, DDA pour Radio Vatican.
Le dialogue national du Gabon tient ses travaux du 2 au 30 avril. Ces assises visent réunir le peuple gabonais pour un meilleur avenir de leur pays. Monseigneur Jean-Bernard Asseco, prêtre du diocèse d'Oyem et porte-parole de ce dialogue national inclusif, nous parle de ses objectifs.
Depuis le 30 août 2023, le Gabon a connu un coup de libération, que certains appellent coup d'État, mais que l'ensemble des Gabonais appellent coup de libération, parce que nous étions arrivés au point où il y avait au niveau de notre nation beaucoup de déceptions, beaucoup de crispations, beaucoup de clivages, et le Gabon était comme un navire qui était en train de faire naufrage. Et les Gabonais ont salué avec beaucoup de ferveur le coup de libération qui a été opéré par les militaires. Alors, le dialogue national, il entre dans le programme arrêté par les militaires, désormais au pouvoir au Gabon. qui ont senti la nécessité de faire asseoir sur une même table les Gabonais de tous bords, de tous ordres, de toute classe sociale, intellectuelle, politique, pour que nous arrêtions ensemble une nouvelle maquette de notre nation, une nouvelle maquette de ce que doit être.
Quelle est la nature de ce dialogue national inclusif qui réunit les Gabonais?
C'est un dialogue qui ne sera plus politique comme les dialogues antérieurs. Il sera national et inclusif dans la mesure où il intègre toutes les classes et il intègre les politiques de tous les partis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les militaires ne voudraient plus entendre parler de clivage politique, donc de partis politiques. Ils voudraient que les Gabonais, unis dans la concorde et la fraternité, telle que définie par notre hymne national, que nous nous asseyons ensemble dans un esprit convivial et fraternel pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays.
Quels sont les objectifs de ce dialogue national inclusif?
Alors, les objectifs, le premier objectif, c'est donc de réussir à réunir autour d'une même table l'ensemble des filles et des fils du Gabon pour discuter ensemble, examiner les problèmes que connaît notre nation, chercher des solutions, arrêter les solutions dans un ordre d'urgence retenu et donner à notre pays une nouvelle crédibilité. Faire en sorte que les Gabonais retrouvent leur fierté d'être Gabonais et qu'ils retrouvent que les objectifs ne sont plus individuels, mais collectifs, communs à tout le monde.
Monseigneur Jean-Bernard Asseco, prêtre du diocèse d'Oyem au Gabon et porte-parole du dialogue national inclusif, des propos recueillis par Stanislas Kambache.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Commençons l'actualité politique et sociale sur le continent africain avec le départ des casques bleus de l'ONU de la République démocratique du Congo. Après les Pakistanais fin février, les casques bleus chinois de la MONUSCO ont fait mardi leurs adieux au Sud Kivu, nouvelle étape du retrait de la force onusienne réclamée par Kinshasa, qui la juge désormais inutile. Ces quelques 200 hommes travaillaient essentiellement sur des projets d'ingénierie, la réparation des routes, la réhabilitation des ponts. Au Kenya, plusieurs centaines de médecins ont manifesté mardi dans la capitale Nairobi malgré l'interdiction des autorités au 28e jour de leur mouvement de grève pour des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail. Les 57 hôpitaux publics de ce pays voient leur activité ralentie depuis près de 4 semaines par ce mouvement lancé par l'unique syndicat de médecins du Kenya, auquel s'est joint le syndicat des personnels soignants hors infirmiers. L'armée du Burkina Faso a reçu lundi une douzaine de drones de combat livrés par la Turquie afin de lutter contre les groupes djihadistes. L'agrandissement de la flotte permet d'intervenir en temps opportun et d'effectuer une surveillance permanente, a expliqué le chef de l'État Ibrahim Traoré. Le pays est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi qu'aux représailles attribuées aux forces armées et leurs supplétifs qui ont fait quelque 20 000 morts et 2 millions de déplacés. En Guinée, les délestages d'électricité sont devenus courants depuis quelques mois. L'électricité n'est disponible que 12 heures par jour pour certains quartiers et 6 heures pour d'autres. L'activité économique s'en trouve fortement impactée. Des manifestations qui naissent de ces délestages ont déjà coûté la vie à certains jeunes de la capitale. La correspondance à Conakry de Emmanuel Émilie Monod.
Tout a commencé quelques jours seulement après l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays le 18 décembre dernier. Cette tragédie a coïncidé à la période d'étiage qui se caractérise par la baisse du niveau d'eau dans les retenues des barrages hydroélectriques, empêchant ces derniers de fonctionner de manière optimale, alors que quelques mois auparavant, les autorités avaient mis fin au contrat d'une centrale flottante turque qui aidait ces dernières années à passer le cap des étiages. Conséquence, la desserte s'est considérablement dégradée, l'activité économique tourne au ralenti, le courant n'est pas disponible dans la journée et cela impacte les PME qui ne peuvent malheureusement supporter de fonctionner au groupe électrogène. Dans les ménages aussi, l'électricité n'est disponible que de 18h à 6h du matin pour les quartiers les mieux servis, alors que d'autres ne la reçoivent que de minuit à 6h. Il y a quelques années en arrière, ce type de délestage était devenu un lointain souvenir. Les Guinéens, notamment dans la capitale, recevaient l'électricité H24 en toute période de l'année, ce qui provoque très souvent des manifestations de protestation en pleine nuit. Celles-ci ont déjà causé des morts parmi les jeunes qui réclamaient le rétablissement de la desserte. Emmanuel Milimono, Conakry, pour Radio Vatican.
La deuxième partie de ce programme, avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, avec Stanislas Kambashi.
Ouvrons cette rubrique par l'Australie. La conférence des évêques catholiques de ce pays d'Océanie a publié un code de conduite nationale intitulé « L'intégralité de notre mission commune ». Ce code de conduite nationale vise à garantir la sécurité et une tolérance zéro à l'égard des abus sur les personnes vulnérables. Il est essentiellement destiné aux personnes exerçant leur ministère pastoral dans les diocèses catholiques d'Australie. Dans un communiqué de presse publié le 8 avril par la conférence des évêques catholiques d'Australie, les évêques présentent les documents des 32 pages qui constituent, selon eux, un moyen de renforcer l'engagement continu de la conférence des évêques catholiques australiens en faveur de la sécurité des enfants et des personnes vulnérables. Ces documents remplacent les codes antérieurs. En Haïti, la situation sanitaire est intenable, l'activité des gangs ne facilitant pas le travail des hôpitaux. Le gouvernement haïtien a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 3 mai prochain dans les départements des Port-au-Prince, la capitale, toujours sous la coupe des gangs armés. Dans l'hôpital Saint-Camille au nord de la capitale, les directeurs, les pères Robert Daudier ainsi que les 285 personnes qui y travaillent subissent tous les jours les violences des gangs. Les directeurs de l'hôpital Saint-Camille témoignent d'une aggravation de l'état de santé des patients et des difficultés pour continuer à offrir des soins de qualité à tous les malades et de faire des approvisionnements. Écoutons.
Le contexte est difficile. Nous ne vivons pas au jour le jour, mais nous avons toujours pris soin de notre stock. Lorsque nous trouvons l'occasion pour aller nous approvisionner, nous profitons et en même temps, nous faisons bonne gestion de ce que nous avons. Nous sommes bloqués là où nous habitons, là où se trouve l'hôpital. Il y a un groupe armé qui a barricadé les rues. Il y a possibilité de laisser passer une ambulance. Pas toujours. Toujours est-il, avant de sortir, avant de prendre une telle décision, il faut chercher à contrôler la situation dans la zone. Est-ce qu'il y a des tirs? Est-ce qu'on va nous laisser passer? Ou bien il faut négocier avec certains bandits pour nous laisser passer, pour aller nous approvisionner, surtout pour ce qui concerne l'oxygène, pour ce qui concerne du carburant, pour ce qui concerne d'autres produits de première nécessité dont nous avons besoin. Donc, lorsque nous arrivons à sortir, c'est par négociation avec ces hommes armés, ces bandits.
Le père Robert Daudier, directeur de l'hôpital Saint-Camille à Port-au-Prince en Haïti, des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. En Amérique latine, lancement de l'Observatoire latino-américain pour la synodalité. L'Observatoire, qui fait partie d'un vaste processus de discernement de la communauté latino-américaine et caribéenne, proposera des nouveaux modèles d'intégrité communautaire, participative et synodale. Nous espérons que cet observatoire pourra être un exemple de cheminement, car il nous aidera à discerner ce que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire, affirment les initiateurs de l'initiative. Il s'agit d'un cadre théologique pour soutenir les processus synodales, mais le cadre est aussi ouvert à des propositions de tous, femmes, hommes, jeunes, autochtones, afin d'aider à un bon discernement d'ensemble. La République dominicaine a célébré son 53e congrès eucharistique national sous le thème « Nos guérisons ont pris soin de nous ». Cet événement, en préparation du 53e congrès eucharistique international de Quito en Équateur, a été consacré à la prière. Entre conférences, confessions, adorations eucharistiques et messes, des milliers de personnes ont rempli l'auditoire de la Casa San Pablo à Saint-Domingue le 7 avril, dimanche de la Miséricorde. Faisant référence au thème du 53e Congrès eucharistique international 2024, la fraternité pour guérir le monde, Monseigneur Maximiliano Ordóñez, évêque auxiliaire de Quito et secrétaire du 53e Congrès eucharistique international, a souligné que la fraternité est souvent blessée par les péchés et cela amène à la corruption, à l'égoïsme, à l'orgueil, à des rivalités et à des injustices. L'avortement ne sera jamais un droit fondamental, non aux impositions idéologiques, déclaration de la COMECE, la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne. Cette instance continentale a publié une note en vue du vote le 11 avril à Bruxelles sur l'inclusion du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jésus Christus.